terror states.
Non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique, 190e émission et première de cette année 2014. Un démarrage un petit peu tardif. Une double dose de revue de presse pour démarrer cette émission. Une revue de presse évidemment signée par Luc, Manu et Nico de l'April, l'association pour la promotion et la recherche en informatique libre. Ce seront les revues de presse de la semaine 51 de l'année 2013 et la semaine 2 de l'année 2014. Et puis, ce début d'année, ce seront les traditionnels vœux. On démarrera aujourd'hui avec l'April et Framasoft. On fera un petit tour d'actu avec Jeanne Tadeuse de l'April pour parler de diverses choses, du contrat Open Bar Microsoft, la défense de la relance de l'initiative candidat.fr pour les municipales, du libre dans l'éducation nationale, toujours pas une priorité pour le ministre Payon, de la signature par l'April d'un texte fondateur, principes internationaux sur l'application des droits de l'homme à la surveillance des communications, de la 14e édition de Libre en fait qu'il vous faut préparer pour du 7 mars au 13 avril, de l'exemple italien où le texte de loi donnant priorité aux logiciels développés par les ministères et aux logiciels libres dans les administrations est enfin publié, et puis de la déclaration d'utilisation du logiciel libre que tout le monde peut signer. C'est avec Alexis Kaufmann qu'on fera les vœux et un tour d'actu de l'association Framasoft. On parlera de la réorganisation de Framasoft en trois grands domaines, logiciel, culture et services, du fait de petites réorganisations internes, notamment de s'émanciper totalement des outils Google d'ici fin 2014, des petits soucis financiers aussi, et puis de diverses sorties, notamment le Bastard Incorporated, le guide du connard professionnel, qui peut vous montrer comment devenir non pas ingénieur, mais ingénieur. Un projet assez potache, mais fait très sérieusement. De Vosges, opération libre, ce sera du 17 au 18 mai à Gérardmer, de la journée du domaine public ce dimanche 26 janvier à Toulouse, dans lequel Alexis Kaufmann, côté domaine public, fera un ciné-concert qui sera aussi présenté au RMLL 2014 au mois de juillet à Montpellier. S'il nous reste un petit peu de temps, on écoutera un petit peu de musique et on salue ceux qui nous écoutent sur les ondes de Radio Escapade ou de Radio Larzac. Tout de suite donc, deux revues de presse pour le prix d'une.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire
de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 51, année 2013. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Eh bien, cette avant-dernière revue de presse de l'année, quoi de neuf ?
Et oui, avant les fêtes, pendant les fêtes pour ceux qui nous écoutent probablement. Alors, on a une jolie revue de presse, 7 beaux articles, comme d'habitude. On va vous parler de la NSA, d'une loi en France qui parle de surveillance, les Nations Unies et la vie privée, le gouvernement allemand, un projet de loi américain intéressant contre les brevets logiciels, le calendrier 2014 du libre partage, et pour finir, encore des discussions sur l'open data en France avec un joli portail sur Internet.
Numérama contre la NSA, l'Europe déroule ses solutions, à un article de Julien L.
Donc en gros, l'Europe n'est pas contente, notamment elle s'est fait hacker il y a pas si longtemps et il y a plein de données qui sont sorties du Parlement européen. Et puis il y a toutes ces révélations, Snowden, on en a d'autres parce que c'est pas fini. Et donc là, enfin, une réaction, une sérieuse réaction.
C'est la commission des libertés civiles, la commission Libé ou Lib, je ne sais pas comment on dit, on en avait parlé il y a peu de temps, puisqu'ils avaient sorti un document sur ces sujets-là. Évidemment, ils sont impactés en premier lieu, et effectivement, ils font toute une série de propositions.
Donc il y en a plusieurs, donc ça, c'est très varié, et ça touche à tous les points sensibles de Prism et autres. Donc il y a déjà une mise en avant du logiciel libre, donc un peu dans la suite de ce qu'a fait le Brésil, donc de dire qu'on ne peut pas utiliser de logiciel dont on n'a pas la maîtrise, donc utiliser du logiciel libre. Ça passe aussi par tirer des câbles sous-marins qui ne passent pas par les États-Unis pour être tranquille et pas pouvoir avoir d'écoute... pour que la NSA n'ait plus d'emprise là-dessus.
Et globalement, il y a des discussions sur le fait que, voilà, avec les États-Unis, les relations doivent évoluer, parce que finalement, c'est de eux que viennent le plus gros des problèmes d'aujourd'hui.
Ouais, oui. Aujourd'hui, tous les systèmes passent par l'Amérique, et les Américains, via le Patriot Act, ont à peu près accès à tout ce qu'ils veulent dès que ça concerne un peu l'Amérique. Donc le but, c'est aussi de remettre sur la table tous les accords transatlantiques qui avaient été montés.
Et qui sont en train d'être montés, il y a encore des trucs.
Voilà, il y a encore plein d'autres qui sont en discussion pour arriver à sortir de ça, et que l'Europe reprenne la main sur tout ça.
Voilà, il parle également de donner une minimum de couverture juridique pour les citoyens européens sur ce qui pourrait se passer aux États-Unis, hein, puisqu'aujourd'hui...
Pour les citoyens lanceurs d'alerte, tu veux dire, ou
non, mais d'une façon générale par rapport aux procédures qu'on peut faire, parce qu'aujourd'hui, selon les lois américaines, l'État américain peut espionner n'importe qui dans le monde à condition qu'il ne soit pas citoyen américain. Alors, il peut également les espionner, mais il y a des conditions. Mais si la personne n'est pas citoyenne des États-Unis, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent dans le cadre réglementaire américain. Voilà, et il y a également l'idée de mieux protéger les lanceurs d'alerte. Alors, ce qui est dommage, comme Snowden, mais ils ne parlent pas de lui, ils disent pas, tiens, on pourrait lui donner l'asile. Non, c'est s'il y en a d'autres, ce serait bien d'y réfléchir, mais pour lui, on va rien faire. Quand même.
Bah, les lanceurs d'alerte posent le problème que c'est un peu la patate chaude, que chacun aimerait bien faire quelque chose pour dire on aimerait bien l'accueillir, mais en même temps, ça serait donner un signe, bah, allez-y, de balancer tous vos dossiers.
Et puis, c'est les États-Unis en face. Hein,
les États-Unis en face, donc en gros, ils sont d'accord pour faire quelque chose, mais s'il vous plaît, pas chez nous. Quoi.
Puis, il y a aussi l'idée que les États européens sont largement mouillés. On sait que la France a collaboré, notamment parce qu'elle a pas mal de câbles sous-marins qui passent par de chez elle, et très récemment aussi que la Grande-Bretagne a bien participé à l'espionnage d'entreprises et d'autres États en Europe, et que ça a été un peu la tête de pont des États-Unis là-dessus, et donc forcément, on fait des suggestions, mais ça risque de faire quelques éclaboussures.
Petit détail, en article secondaire, il y a un article qui parle de l'Union Européenne et de Microsoft, un mariage de 20 ans, parce que oui, l'Union Européenne achète massivement du Microsoft, et ce serait peut-être le moment d'y réfléchir et de passer à du logiciel libre.
Libération.fr, surveillance du net, tout savoir d'une loi qui vous regarde, par Sylvain Mouillard.
Alors, on continue à parler de vie privée, des institutions qui espionnent leurs citoyens, mais ce coup-ci, les nôtres, nos institutions françaises, et oui, ça se passe tout près de chez nous.
Voilà, donc la NSA en révèle, la France l'a fait. Il y a une loi donc, qui s'inscrit dans le cadre de la loi sur la programmation militaire. Son article 20 donne maintenant tout pouvoir aux services généraux français pour accéder aux données des personnes, et en dehors de tout cadre légal, donc il n'y a pas d'aval d'un juge ou quoi que ce soit. Ils font les trucs dans leur coin, ils écoutent ce qu'ils veulent, ils se branchent sur les câbles qu'ils ont envie, et du coup, bah, c'est un peu prisme version à la française et pour les Français.
Donc concrètement, dans quelles conditions ces trucs-là peuvent être utilisés? Donc c'est très large, hein, puisque donc en gros, ils peuvent utiliser ces moyens quand la sécurité nationale est impactée, pour la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France et la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisée. Donc ça ratisse très très large. Et également, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc ils peuvent avoir accès aux métadonnées, avoir accès aux informations, au contenu proprement dit, et également, comme tu le disais, donc être en temps réel, donc potentiellement pouvoir se brancher et écouter directement. Alors, on dit qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il y a quand même une commission indépendante, donc c'est toujours rigolo ce terme d'indépendant, parce que on se demande qui est indépendant et qu'est-ce que ça veut dire, qui les désigne, dès lors qu'ils sont désignés par quelqu'un, ils ne sont plus vraiment indépendants, mais dans lequel on est censé trouver des députés et différents personnels, et qui sont censés surveiller, dans certains cas a posteriori, ce que les services secrets vont pouvoir faire.
Donc tout ça, c'est assez terrible, il y a beaucoup de députés qui sont mécontents de cette situation, ils en appellent à l'atteinte à la démocratie. Qu'est-ce qui va se passer? Une saisie du Conseil constitutionnel?
Alors il ne va plus rien se passer parce que la loi est votée, donc c'est trop tard.
Ouais, et puis en plus, sur la saisie du Conseil constitutionnel, il y a eu pas mal de random là-dessus, il y avait suffisamment de députés, mais en fait, comme il y avait deux camps, en gros l'UMP et les écolos, et les uns
et
voulaient
communistes
pas,
également.
Et les communistes, mais les uns voulaient pas avoir la signature à côté des autres, donc en fait on avait le bon nombre, on avait plus de 60 signatures, mais au final il n'en restait plus que 47 ou 18 en fonction de comment on comptait, mais donc du coup c'est pas passé, ça a été refusé.
Alors si j'ai bien compris, c'est aussi parce que la loi a été promulguée super rapidement.
Et la loi a été promulguée une journée en avance par rapport à ce qui se fait d'habitude. Normalement le gouvernement a 10 jours en fait, enfin donne 10 jours pour laisser la saisie du Conseil constitutionnel, et là il l'a fait en 9, donc la 10e journée, ben c'était trop tard.
Ah, il a senti que le vent risquait de tourner, en tout cas, bah, voilà,
c'est fait. Donc une mauvaise nouvelle en France, on espère qu'il ne sera pas utilisé.
Bah, voilà. Après, il reste quand même quelques parades possibles, il y a des amendements qui peuvent encore être déposés sur cet article-là, mais qui doivent être revotés, qui repartent en fait, qui relancent une boucle complète. Donc c'est plus lent, mais on peut encore faire des choses. Et à titre personnel, on peut aussi se protéger avec du chiffrement et plein d'autres choses.
Et du logiciel libre.
Et du logiciel
parce
libre.
Parce que finalement, il n'y a que ça qui compte, le chiffrement et le logiciel libre.
Et parlez-en à vos députés également, ça ne peut pas faire de mal. Boing boing, UN adopts resolution in favor of digital privacy, un article de Cory Doctorow, le célèbre Cory Doctorow, en anglais.
Alors, encore de la vie privée, encore des institutions, mais on monte d'un cran.
Voilà, donc là, c'est carrément les Nations Unies, maintenant, bah, qui font un peu l'inverse de la France. Quand la France dit « on va espionner tout le monde », et ben les Nations Unies disent bah, « on va essayer de mettre une espèce de loi générale sur la vie privée dans le monde ». Donc il pose quatre grands principes là-dessus. Déjà de défendre Internet, enfin l'organisation d'Internet qui est décentralisée et complètement décorrélée de tout gouvernement ou autre. D'éviter la surveillance et le monitoring des données. De protéger y compris les métadatas. Donc les métadatas, c'est les informations qui permettent des échanges techniques, on va dire, et qui permettent de savoir
qui a envoyé qui à quoi,
le sujet, les dates et autres, et qui veulent les considérer comme aussi importantes que le contenu en lui-même. Et puis enfin, de remettre aussi de la proportionnalité là-dedans, c'est-à-dire de ne pas sortir l'artillerie lourde, même pour une petite connerie, et donc de devoir juste justifier des moyens qu'on met en œuvre. Pourquoi on les met, voilà, qu'on ne fait pas de l'espionnage industriel juste pour quelqu'un qui a commandé une pizza, quoi.
A priori, des bonnes idées. Moi, j'ai bien aimé un truc assez simple. On ne doit pas utiliser le fait que les autres pays nous espionnent pour faire une sorte d'échange de bons procédés. Vous espionnez mes citoyens, j'espionne les vôtres, parce que finalement, c'est
vraiment ce qui se passe. Et après, on met les infos en commun, comme ça, officiellement, on ne les a pas espionnés.
Voilà, et la NSA, notamment, bien, aurait peut-être fait un petit peu ça avec le Royaume-Uni, en se laissant espionner, en quelque sorte, de l'extérieur.
Ou même pour la France, en servant de relais, les États-Unis n'avaient pas de point d'entrée vers l'Afrique, donc ils sont passés par la France pour atteindre l'Afrique. Donc c'était le programme Lustre en France.
Peut-être un point négatif, c'est que c'est les Nations Unies, ils ont peu de pouvoir finalement sur ce genre de choses. C'est bien qu'ils en parlent, c'est bien qu'ils votent quelque chose, mais de là à ce que ça arrive chez nous...
Je pense qu'il y a encore du temps.
Le monde informatique, le gouvernement allemand s'implique dans l'open source et la sécurité, un article de Oscar Barton.
On reparle d'institutions, mais là, c'est chez nos voisins, les Allemands.
Bah oui, ils prennent des positions. Alors c'est un propos qu'on a déjà entendu très souvent, hein, qui est celui qui prévaut quand des institutions veulent aller dans le sens du libre. Là, on retrouve quelque chose d'assez significatif qu'on a déjà vu ailleurs. Hein. C'est, ils disent en gros, ouais, le libre, c'est bien, on va donner la préférence aux entreprises allemandes. Il y a cette idée d'avoir une sorte de label des entreprises locales qui ont des bonnes pratiques.
Donc ce serait voilà. Du made in Germany, du software made in Germany.
Voilà, pour éviter les espionnages et tout ça. On retrouve également cette idée que c'est pas prioritaire, donc encore une fois, on est sur un truc assez général, pas nécessairement très engageant.
Et puis surtout, on repousse encore le passage au libre en pérennisant un peu les logiciels privateurs qui existent aujourd'hui. C'est là, on fait avec, mais on va pas mettre les moyens vraiment pour s'en débarrasser comme ça. C'est plus, y a pas vraiment d'incitation, on subit plus qu'autre chose. On aimerait bien aller vers, mais on bouge pas plus que ça, quoi.
Bon, a priori, c'est des
bons jamais principes.
Perdu. Oui, mais il va falloir attendre l'année prochaine.
PC Impact, le projet de loi américain contre les patent trolls, ralenti au Sénat, un article de Vincent Herman.
Alors des bonnes nouvelles, des institutions américaines sur les brevets logiciels.
On en a énormément parlé dans la revue de presse, ça a été la guerre des brevets à tour de bras entre Samsung, Apple, Google, Microsoft, etc.
Et ça coûte super cher à l'économie américaine globalement.
C'est des milliards investis là-dedans, et on en a parlé très souvent également, il y a ce qu'on appelle les patent trolls. Nicolas, tu me fais un petit rappel.
Ouais, les patent trolls, c'est des boîtes qui existent juste pour faire des procès, gagner de l'argent grâce à des brevets qu'ils rachètent, et puis après ils vont en procès, enfin... Ils menacent de procès à des boîtes en leur faisant payer des petites sommes qui suffisent en fait à...
Des petites sommes de l'ordre de 75 000 dollars dans un exemple qui est donné dans l'article.
Mais c'est des sommes qui sont relativement petites par rapport aux enjeux d'un réel procès. Et donc en fait les entreprises préfèrent payer plutôt que d'aller au procès. Et du coup ces boîtes-là ne vivent que comme ça et que grâce à ça.
Et c'est souvent ridicule, hein. C'est souvent des brevets qui sont vraiment idiots. Donc là, les institutions américaines se rendent compte qu'il y a un problème et elles sont en train d'essayer de contrecarrer ça par des lois.
Non, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, ça a marché très 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 vite. En 3 mois, les choses ont bougé considérablement, des lois sont arrivées. Et là, certains sénateurs américains sont en train de dire que ça va trop vite et qu'on est peut-être en train de faire des bêtises, notamment, enfin, autour de plusieurs idées, notamment l'idée que bah, ça va pas toujours au procès, et que effectivement c'est de l'intimidation derrière, donc c'est une sorte de rançon à la menace,
hein.
Voilà, c'est du racket en disant bah si tu payes pas, on va te traîner en justice, et même si on perd au bout de 2 ou 3 ans de procédure, toi ça va te coûter une fortune, et tu vas vivre dans une sorte d'insécurité, et donc effectivement si on est sur le terrain du juridique, bah ce comportement ne va pas être contrecarré.
Voilà, et puis il y a l'autre problème aussi, c'est des sénateurs qui commencent à réfléchir et qui regardent que la loi ne touche ici que justement au pénal, aux tribunaux et autres, mais qui ne touche pas au fond du problème, qui sont les brevets en eux-mêmes. Il y a beaucoup de brevets qui sont balancés pour tout et n'importe quoi, il n'y a pas de contrôle et aucune régulation là-dessus, et donc les patent trolls usent et abusent de ça en déposant des brevets à tour de bras sur des conneries, et après pour demander de l'argent, et donc les sénateurs disent « bah là on a été vachement vite parce qu'on se rend compte qu'il y a un problème, enfin l'origine du problème ça reste le brevet, donc il faudrait vraiment le remettre à plat, et ça c'est la loi on parle pas du tout ».
Rappelons qu'il y a une affaire en cours, Alice contre je ne sais plus, qui va peut-être définitivement détruire le système des brevets logiciels aux États-Unis, mais ce ne sera pas décidé avant l'été prochain.
En tout cas, c'est l'avis de notre expert Gibus, et qui lui est très enthousiaste et très positif là-dessus. Et il pense qu'effectivement le vent est en train de tourner et qu'on pourra peut-être appeler ça une victoire très bientôt. Numérama, le calendrier 2014 du libre partage par Framastoft et Nina Pali, un article de Julien L.
Donc un calendrier de nu, hein ? Non ? Non ?
Absolument. Non. Quoique les petits personnages n'ont pas l'air très habillés, mais ce sont des petits chiens, et enfin, en tout cas des petites boules avec des oreilles et des gros nez. Donc Nina Pali, c'est une artiste américaine hein, qui est à fond dans l'art libre et dans le copyleft, et pas qu'un peu. Et elle a fait énormément de choses, dont des films d'animation vraiment très sympas. Il y en a un qui s'appelle Sita chante le blues, par exemple, que vous pouvez légalement télécharger sur Internet.
Ouais.
Je vous invite vraiment à récupérer ça, c'est vraiment très très bien. Et là, c'est un calendrier fait avec des petites BD qu'elle a faites, elle est graphiste hein, à la base, et qui sont deux petits personnages qui font des sortes de petites blagues et des petits strips sur les questions de propriété intellectuelle.
Voilà, puis c'est vraiment très marrant, les exemples sont assez flagrants pour montrer la débilité profonde du système de... d'aujourd'hui sur le sur la toute la propriété intellectuelle, les majors et la musique, le cinéma et autres. Donc c'est vraiment très intéressant. Les 12 mois de l'année, c'est
oui, c'est assez fun.
C'est assez fun et ouais, c'est assez marrant comme calendrier.
On vous recommande, imprimez-le et partagez-le
ou achetez-le. Blog lemonde.fr, open data de nouvelles données gouvernementales mises à disposition gratuitement, un article d'Alexandre Lechenet.
Donc l'open data en France, ça marche, ça existe et ça évolue.
Oui, c'est une très bonne nouvelle également. Nos amis de Regard Citoyen ont l'air enthousiastes selon l'article. Et bah, en fait, l'État français s'est lancé dans l'open data depuis un petit moment et là, bah, ils rénovent un petit peu tout ça. Ils ont mis un portail qui est un portail en logiciel libre pour partager.
Avec Secan, qui a l'air d'être pas mal.
Voilà, pour partager des informations qu'ils ont réorganisées dans un nombre plus restreint de fichiers. Donc plus d'informations, mais dans moins de fichiers, pour qu'on ne soit pas obligé d'aller chercher l'info à droite à gauche et de se torturer pour ça. Et donc voilà, donc très bonne nouvelle.
Ouais, et en plus, ils ont enlevé des redevances pour l'accès aux données ou autre. Donc aujourd'hui, les données, on peut vraiment faire ce qu'on veut pour la plupart des choses qui sont publiées là-bas. Et c'est vraiment bien, c'est structuré, et c'est vraiment un bon élan pour l'open data en France. On peut même contribuer en déposant ses propres données sur ce site. OpenStreetMap a commencé en mettant des données publiques françaises à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec ce système-là.
Bien, Manu et Nicolas, merci beaucoup.
À la semaine prochaine.
Joyeux Noël à tout le monde. Enfin, ouais. C'est déjà passé normalement à l'heure où vous nous écoutez. Donc, bonne année.
Et bonne année.
Ouais, bonne année à tout le monde et à la semaine prochaine.
Et on vous souhaite à tous trois une excellente année ainsi qu'à tous les membres de l'April. Ça fait quand même quelques milliers. Ça va être un petit peu long. La semaine 52, il n'y avait pas de revue de presse car la semaine 52 étant la dernière de l'année, eh bien, il se passe à peu près rien à part dans vos assiettes, vos estomacs et vos flûtes ou vos coupettes. Ça dépend ce que vous préférez. La semaine 1 de l'année 2014, il n'y avait pas d'actualité non plus. Décidément, bah oui, hein, c'était la trêve des confiseurs qui se poursuivait. Et nous enchaînons donc pour cette double dose de revue de presse de l'April avec la semaine 2 de l'année 2014.
Revue de presse de l'April, semaine 2, année 2014.
Vous voyez, je vous l'avais bien dit.
Bonjour Manu.
Salut Luc.
Alors ça fait 2 semaines qu'on n'a pas eu de revue de presse, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh oui, les journalistes sont feignants et puis nous aussi, ils prennent des vacances et ils n'écrivent pas beaucoup d'articles et pas beaucoup d'articles sur le logiciel libre en particulier, qui est quand même notre propos. Donc on en a profité et effectivement on se retrouve ensemble pour cette deuxième semaine. Donc vous allez nous écouter dans la troisième semaine 2014, nécessairement. Et on a 8 beaux articles, 8 jolis articles avec plein de sujets intéressants.
Bah pas tant que ça, hein. Ça parle un petit peu de logiciel libre, mais ça reste encore un petit peu léger. Mais en tout cas, on va se lancer là-dedans. Qu'est-ce qu'on a au sommaire?
Alors, on va vous parler de Google, de filtres anti-porno, et oui, je te vois sourire, hein, de la MPA, des trucs américains, un jeu, les élections françaises et l'April, des meubles qui sont en open source, la Adopi qui passerait au CSA, et pour finir, on va parler du sujet que tu adores, Apple.
Le Figaro, la France inflige une amende record à Google, un article de la rédaction. Un record énorme,
phénoménal, surtout quand on pense au budget et au chiffre d'affaires d'une société comme Google.
Là, ils ont mal. Hein.
Ah oui, mais ça fait super mal, la CNIL est trop forte. Hein.
C'est combien?
150 000 euros.
Donc une paille, que dis-je, même un poil de fesses pour Google qui évidemment gagne des milliards. Mais voilà, c'est 150 000 euros, c'est le maximum que la CNIL a le droit de mettre comme amende. C'est d'ailleurs même pas précisé dans cet article-là. C'est le maximum que la CNIL peut faire donc, et ils l'ont fait. Donc c'est déjà en soi une bonne nouvelle. Mais il y a autre chose qu'ils doivent faire et qui peut faire un petit peu mal à Google.
Ils doivent publier sur leur site web la notice comme quoi ils n'ont pas suivi la loi française et la CNIL. Et effectivement, Google, a priori, c'est leur business d'avoir une page web un peu propre, un peu sympa. Pas. Ça risque de leur faire bizarre de devoir afficher des trucs qu'ils contrôlent pas.
Donc ils ont contesté la décision, mais bon, ça a l'air assez mal parti. Et au-delà de cette somme qui est vraiment purement symbolique, ça sera intéressant de voir si effectivement ils mettent ça à exécution.
Juste pour dire quand même, c'est parce que Google ne respecte pas le droit français et la confidentialité des données sur Internet. J'ai pas le détail sous les yeux. Par contre, la chose qui est amusante, c'est la CNIL espagnole, qui a sûrement un autre nom, hein, j'imagine. Elle a un peu plus dedans.
Voilà, ils peuvent mordre un peu plus fort, 900 000 euros. Donc voilà, ça fait un peu plus mal. Et il semblerait que bah, toutes les institutions un peu semblables en Europe se soient un petit peu synchronisées en disant bon, on va leur taper dessus un petit peu pour les remettre dans le droit chemin. Parce que la CNIL toute seule dans son coin, ça fait pas nécessairement très peur. Mais à partir du moment où tous les pays européens commencent à s'y mettre, c'est même pas financièrement, mais ils vont peut-être se rendre compte qu'il faut qu'ils plient. PC Impact, le filtre anti-porno britannique multiplie les dommages collatéraux, un article de Neil Sagnas.
Alors, c'est ton bon article préféré depuis longtemps, hein, en tout cas cette année?
Bah non, pourquoi?
Arrête, ça parle d'anglais, franchement, c'est super intéressant les anglais.
Je suis pas particulièrement anglophile, voilà, mais enfin bon, cette histoire, c'est une histoire de filtrage, de censure.
Et de pudibonderie à la mormoneur.
Pas la mormone de Manu, justement. Justement non. Donc la Grande-Bretagne a décidé que le porno suffisait comme ça et qu'il fallait le filtrer, donc que tous les providers devaient faire ça.
Et c'est pour les enfants, hein, attention, il faut faire attention à leurs fragiles yeux. Et au nom de cela, Cameron a mis en place, a obligé à ce que les fournisseurs d'accès mettent en place des filtres qui filtrent plein de choses.
Et comme toujours, le filtrage, ça marche pas. Donc déjà, ils ont pu noter que d'un fournisseur d'accès à l'autre, le résultat n'est pas du tout pareil. Certains filtrent énormément de trucs, y compris des choses qui n'ont pas besoin d'être filtrées. Et d'autres filtrent quasiment rien, donc c'est purement symbolique. Et on en parle parce que parmi les trucs qui ont été filtrés, il y a notamment une distribution GNU Linux qui ne pouvait plus être téléchargée, qui a été effacée.
Fedora.
Enfin, effacée en tout cas, qui a été censurée.
Voilà, qui a été censurée. Et puis MicroTorrent, qui est un outil de BitTorrent, du téléchargement pair à pair. Et effectivement, bien, c'est des logiciels qui peuvent enfreindre la loi dans certaines circonstances. Et on pourrait imaginer que, outre des filtres sur le sexe, il y aura des filtres sur le terrorisme, des filtres sur les crimes qu'on peut faire sur Internet et peut-être aussi le partage illégal de contenu. Donc on va assez rapidement rentrer dans des domaines qui nous concernent et qui concernent les logiciels libres.
Voilà, donc une réaction de Cory Doctorow, qui est un Américain qui fait partie un peu des stars dans les domaines des libertés sur Internet, et qui dit qu'il n'y a rien de plus mortel qu'un faux sentiment de sécurité. Donc on sait par exemple qu'il y a eu des précédents, l'Australie avait mis en place un système de filtrage avec une blacklist, ils avaient mis des sites qui n'avaient pas le droit d'être, en tout cas affichés, qu'il fallait filtrer, et ça s'était arrêté notamment quand on s'est aperçu que dans cette liste, il y avait quoi ?
Il y avait tous les sites qui contestaient cette loi et qui disaient « attention, les filtres, c'est mauvais ». Et donc, ils avaient bloqué
Près de 30% des sites bloqués étaient des sites qui contestaient la loi. Donc, ils montraient que ce genre de machin, finalement, n'a pas vraiment d'autre objectif que de contrôler pour contrôler.
On attend les scandales. Hein. Je ne doute pas qu'il y aura des choses un peu perturbantes. Déjà, beaucoup de sites sur l'éducation sexuelle qui ont été bloqués, des sites sur la fécondation, tout des trucs assez importants, voilà, qui sont déjà bloqués. C'est pas gênant d'après Cameron, mais effectivement, ça peut perturber d'autres personnes.
PC Impact, la MPAA rejoint le W3C en plein travail sur la standardisation des DRM, un article de Vincent Herman.
Alors, les DRM, les menottes numériques, c'est-à-dire la possibilité pour des fournisseurs, pour des gens qui font des éditeurs par exemple, de contrôler à distance votre ordinateur et ce que vous faites avec les différents contenus que vous aurez achetés.
Et on en avait parlé en 2013, il y a ce projet mené par le W3C, qui est l'organisme qui fait un peu la normalisation d'Internet, même complètement, et qui avait l'idée d'implémenter des DRM directement dans HTML5, donc le langage qui sert à faire tourner Internet. Et ça, c'était une très mauvaise nouvelle, et ça continue, ils sont en train de réfléchir à comment installer des petits systèmes de contrôle, de verrouillage, qui permettront de décider ce que vous pouvez faire ou pas avec votre navigateur Internet.
En gros, hein, ils veulent que vous puissiez louer ou acheter des films sur Internet, et eux vérifieront que oui, vous les regardez avec le droit de le faire. Le MPAA, c'est un gros lobbying américain avec des grosses entreprises
du cinéma, ouais.
Du cinéma, et donc ils sont les premiers intéressés par ce genre d'organisation, de mise en place, et là, ils annoncent qu'ils ont envie de travailler là-dedans et qu'ils vont rejoindre.
Ils sont rentrés, oui.
Voilà, ils vont rejoindre le groupe qui s'occupe de DRMiser Internet. On est dégoûté, on a mal au cœur, et on surveille ça attentivement.
Le monde informatique, un jeu pour apprendre à programmer en ligne, un article de Serge Lebal.
Alors, ça parle d'un logiciel, pour une fois, j'ai évité de faire cela dans la revue de presse, mais c'est un logiciel qui a été mis en libre il n'y a pas si longtemps que ça, et qui est intéressant parce qu'il se propose d'aider les gens à programmer, tout simplement.
Oui, donc c'est un petit jeu avec des petits personnages qui vont se taper dessus, et c'est sérieux, hein, il s'agit bien d'apprendre à coder, et donc on va rentrer des lignes de code pour programmer le comportement du petit personnage, finalement c'est un petit robot virtuel, et on va l'envoyer se faire taper dessus ou taper les adversaires, en tout cas remplir des tâches. Et voilà, moi qui code pas, je trouve ça assez intéressant. Il semblerait que ça gère des niveaux très différents.
Oui, et ça gère du multijoueur. Y a une plateforme sur le net, on se connecte dessus et on code avec un langage que moi j'adore de mon côté, qui s'appelle CoffeeScript. Et on va effectivement programmer ses persos. Je n'ai pas encore testé, il faut vraiment que je me
Comment s'appelle ce logiciel ?
C'est Code Combat, donc un bon principe, parce que mettre en commun plein de jeunes, leur donner des outils pour s'amuser, mais en même temps apprendre, je trouve ça vraiment kiffant. Sachant qu'eux, ils vont beaucoup plus loin, c'est une entreprise qui est derrière. Ils proposent notamment d'utiliser ce logiciel pour faire des tests sur des programmeurs, et si vous arrivez à remplir certains des niveaux les plus difficiles du jeu, eh bien ils vont prendre votre CV et vont aller le proposer dans des grosses boîtes de la Silicon Valley et ailleurs.
Join Up, Campaign on Open Source French Local Elections, un article de Zils Illinus. Donc c'est un article en anglais bien sûr, et qui parle de nous.
Et oui, ça fait du bien, c'est agréable, il parle de l'April, et bah, il explique à ses lecteurs que l'April est en train de se lancer dans une nouvelle campagne liée aux élections françaises qui vont arriver, les élections locales.
Les municipales, oui.
Les municipales, donc effectivement, on est dans les starting blocks en train de travailler dessus en ce moment même. Et bien voilà, il explique d'un point de vue extérieur à la France, qui est toujours pas mal, les problèmes qu'on rencontre en ce moment en France, notamment les présidentielles et l'évasion fiscale, qui est un vrai sujet qui touche tous les pays, et là, bah, pour eux, c'était un des une des choses à mettre en avant.
Voilà, le site JoinUp est un truc de la Commission européenne qui vise à favoriser le partage de moyens et l'interopérabilité au sein des administrations publiques européennes. Donc c'est un site institutionnel. Donc voilà, ça fait plaisir de voir qu'ils en aient sur nous et sur nos actions. Numérama, Espace Logia se lance dans les meubles open source, un article de Guillaume Champeau.
Donc c'est un petit article, comme là aussi on en a tant en temps, c'est en quelque sorte que le logiciel libre a généré dans la foulée de tout ce mouvement-là, eh bien il y a plein de gens qui aiment partager, qui aiment mettre en commun, qui aiment travailler à plusieurs sur différentes problématiques, et là la problématique qui nous concerne, c'est les meubles.
Espace Logia, donc, c'est une boîte qui fait du meuble plutôt cher, sur mesure, plutôt pensé pour les espaces contraints, donc typiquement un truc de parisien. Et ils s'intéressent à cette question du libre, et l'idée, c'est de mettre des plans de meubles. Alors pour l'instant, il n'y a rien de fabuleux, il y a une table, une chaise et un banc, quoi, enfin un tabouret. Donc ils sont pas hyper design, hein, ça fait pas tout à fait rêver, mais en tout cas, ils veulent lancer ce truc-là.
Donc c'est une société française, ils ont repris des meubles qui justement ont été conçus par Mozilla, hein, donc qui est instamment du logiciel libre, et ils travaillent avec d'autres gens, d'autres personnes, notamment des Japonais, parce qu'il y a un peu ce côté, cette idée de mettre en commun et de travailler dans le monde entier, de voir est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées, et on sait qu'il y en a beaucoup, plein, et eux derrière se proposent de réaliser ça, et effectivement à un moment donné de les vendre.
Oui, de conseiller aussi les gens sur la façon de faire, que choisir, comment les adapter, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve à peu près le même problématique qu'on a ailleurs, c'est-à-dire que c'est un domaine dans lequel il y a des designers qui ont l'habitude de toucher des droits sur chacune des copies d'un meuble qu'ils vont concevoir, et là on n'est plus du tout dans cette dynamique, donc ils disent voilà, il va falloir sortir de ça. Le truc un peu moins sympa, c'est que le patron de cette boîte en gros dit on sait que pour gagner de l'argent il faut pas être complètement dans le libre, il faut faire comme Oracle, c'est son modèle, hein, c'est pas la boîte la plus pure dans le domaine du libre, ouais, et jouer sur de la double licence et des trucs comme ça. Donc bon voilà, c'est quand même intéressant de voir que ça bouge de ce côté-là, mais on attend de voir, mais en tout cas ça n'a pas l'air de s'annoncer comme un modèle du genre.
PC Impact, suppression de la Hadopi, le projet de loi ne sera pas présenté avant avril, un article de Xavier Bern.
Alors c'est un petit récapitulatif de ce qui se passe au Parlement. Il s'est beaucoup passé de choses en 2013. L'April est au cœur de tout ça, donc moi je suis assez fier de ce que mon association fasse. Et là, eh bien, on sait qu'il y a des sujets qui vont encore arriver. Donc il parle de la destruction de la Hadopi et du transfert de ses prérogatives au CSA.
Oui, donc ça c'est la nouvelle qui nous laisse un petit peu froid, c'est-à-dire qu'il avait été promis que la Hadopi serait dégommée. Mais
c'est le cas.
Voilà, c'est le cas. Mais dans l'idée de faire à peu près la même chose avec le CSA, donc on n'est pas vraiment avancé.
Non, on va en pire, parce que c'est souvent des dinosaures de ce genre de technologie-là. Ils comprennent encore moins que les gens de la Hadopi, et donc si on leur donne des pouvoirs équivalents ou pire, allez savoir, ça présage mal.
Bon, en tout cas, il se passe pas mal de choses au Parlement. Projet de loi sur la consommation, et donc là, ça peut toucher notamment à des sujets comme les DRM, la CNIL, le blocage de sites, les actions collectives aussi, je crois que ça n'a toujours pas été voté, ce truc-là. Projet de loi sur la géolocalisation, et également des renforcements sur la lutte contre la contrefaçon.
Qui sont assez inquiétants, hein, parce que la contrefaçon, c'est un des moyens d'attaquer le libre par la bande, on va dire.
Notamment, ça avait été le cas avec la loi d'AFSI, hein, l'idée c'était de mettre des DRM partout, et de les rendre obligatoires, en tout cas de les reconnaître dans la loi, et dire que les contourner devenaient illégales, ce qui sortait de fait les logiciels libres de tout logiciel de médias, de lecteur de médias. On s'était pas mal battu là-dessus à l'époque.
Et le petit détail, il semblerait que l'exécutif avait promis aux législatives, donc aux députés de gauche essentiellement, de faire une loi sur les droits et libertés numériques, et ça tarde, ça n'arrive pas, on n'en parle pas vraiment de manière sérieuse, mais les députés socialistes qui l'ont mauvaise après avoir voté la loi sur la programmation militaire, qui est un truc assez atroce au niveau des libertés françaises.
C'est notre petit prisme à nous maintenant.
C'est notre petit prisme, mais alors, on va dire légalisé, ou en tout cas sur lequel il y a une législation qui est passée, parce qu'a priori on faisait déjà, mais là c'est juste qu'ils voulaient avoir leur propre loi sur les libertés numériques, ça n'arrive pas, et on attend de voir nous aussi, parce que ce serait peut-être un bon pendant, on va savoir ce qu'on pourrait récupérer comme droit.
Il serait temps. 01net, Apple nie avoir collaboré avec la NSA pour créer une porte dérobée sur les iPhones. Un article de Gilbert Kaltenbrunn.
Alors mieux que le filtre anti-porno que Luc aime bien, certes, mais Apple, c'est vraiment le truc qui couronne tout, quoi. C'est le sujet phare. Hein.
Tu m'as percé à jour, hein. Apple, c'est mon péché mignon, leur taper dessus me fait un plaisir infini. Et donc là, face à toutes nos histoires de NSA, etc., Apple nie totalement. En disant « Non, nous n'avons jamais collaboré avec la NSA. »
Il nie en bloc, et pourquoi il nie? C'est parce qu'il y a des Allemands, des gens
Der Spiegel,
effectivement, qui ont sorti que le fabricant américain avait travaillé énorme, et travaillait encore au plus haut niveau avec la NSA, et aidait la NSA à contrôler à distance les iPhones, et qu'il y a encore aujourd'hui des logiciels qui sont installés et qui permettent à la NSA de contrôler en live les iPhones, dont un qui s'appelle Dropout Jeep, donc qui serait encore en place et qui marcherait très bien.
Et oui, donc ce petit logiciel permet donc à la NSA de télécharger ou de téléverser des documents, de consulter à distance les SMS, le carnet d'adresses, d'écouter les messages téléphoniques, de repérer la position géographique et même d'activer la caméra et le microphone. Mais en fait, tout ça n'a jamais existé.
Ça n'a jamais existé, comme la NSA d'ailleurs. Et puis je rappelle, il y a des lois en Amérique qui font que quand vous travaillez avec des agences de renseignement, comme la NSA, comme Apple qui travaille vraisemblablement avec la NSA, eh bien il est légalement, non seulement interdit de le révéler, et vous êtes obligé légalement de nier avoir tout contact avec ces grandes institutions américaines qui ont des pouvoirs faramineux et le pouvoir de vous forcer à fermer votre gueule.
Ça rappelle évidemment ce que Lynn Sturvals avait fait quand on lui a posé la question. Il a dit non en hochant la tête de bas en haut.
Alors la question étant, est-ce qu'on vous a approché pour introduire des virus ou des troyens dans le code de Linux, donc le noyau du système d'exploitation qu'on apprécie.
Ça rappelle également une histoire qui n'est pas citée dans l'article et qui remonte à quelques années, où des Anonymous avaient prétendu, donc évidemment on n'a pas de preuves, avoir mis la main sur l'ordinateur d'un spécialiste de la sécurité informatique du FBI, sur lequel ils auraient retrouvé des millions de données personnelles de l'iPhone justement, et en disant que bah, soit le FBI avait piraté le système, soit Apple leur avait donné des infos pour qu'ils travaillent dessus. Bon, sur ce Manu, merci beaucoup.
À la semaine prochaine tout le monde.
Et bonne semaine, bon week-end à tous.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vineau.
L'arboutement ne vous dit rien, mais les logiciels libres, eux, vous parlent.
Divergence numérique, 190e émission. C'est à présent Jeanne Tadeuse de l'April que l'on retrouve sur les ondes de Divergence FM, Radio Escapade et Radio Larzac.
Bonjour Jeanne.
Bonjour.
Je m'associe à Divergence FM pour vous souhaiter à l'April une excellente année 2014 qui, comme l'année 2013, sera riche en préoccupations au niveau de l'April. Par quoi on va commencer? On va peut-être commencer par quelque chose qui a défrayé la chronique en 2013. C'était l'accord Microsoft-La Défense, le fameux accord Open Bar, sur lequel vous reveniez dans une news postée le 2 janvier.
Oui, d'abord, déjà, bonne année également et tous les meilleurs vœux pour 2014, avec beaucoup de belles choses. Effectivement, je pense une année qui devrait être riche. Pour commencer avec l'accord donc Open Bar, donc effectivement, c'est quelque chose qui continue encore aujourd'hui. Tout simplement parce que c'est un dossier important. Donc pour contexte, c'est le contrat qu'a signé le ministère de la Défense avec Microsoft, qui lui permet donc au ministère de la Défense d'utiliser le logiciel Microsoft de manière assez libre, contre un montant élevé, mais c'est simplement un contrat de location, c'est-à-dire qu'on doit le renouveler régulièrement, et donc pour des sommes d'argent assez importantes. Contrat qui d'ailleurs a toujours été passé sans mise en concurrence ni publicité. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? On a effectivement eu tout récemment la confirmation que le contrat avait été reconduit pour les années 2013 à 2017. Donc actuellement, on est en train d'analyser les documents qu'on a reçus. On avait fait une demande de communication de documents administratifs. Donc je pense qu'on pourra en discuter plus en détail bientôt. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le contrat a été renouvelé et que le dossier finalement continue, malgré pourtant toutes les révélations qu'on a pu avoir sur les backdoors de Microsoft et sur l'espionnage américain d'après toutes les communications et de l'Internet.
Malgré aussi l'avis des militaires eux-mêmes qui avaient rendu, on va dire, une étude là-dessus en disant que ce n'était pas terrible. Donc voilà, on va dire que c'est une décision toute politique.
Oui, tout à fait. Même plus que dire que pas terrible, on a pu voir dans des publications, notamment sur Mediapart, des militaires proches du dossier qui disaient avoir bradé leur liberté, voire même trahi leur pays. Donc on est sur des dossiers effectivement très problématiques et des questions assez importantes aujourd'hui.
Absolument. Et puis 2014, ce sera les élections municipales. À ce titre, dans ce cadre-là, ce sera les 23 et 30 mars 2014. L'April poursuit sa sensibilisation au logiciel libre auprès des responsables politiques par l'initiative candidat au pluriel.fr municipal 2014. Là aussi, il y a du pain sur la planche.
Tout à fait. Donc l'initiative candidat.fr, donc, c'est l'initiative de l'April qui a pour but de sensibiliser les candidats aux élections au logiciel libre, mais aussi d'inciter les citoyens à s'impliquer et à aller contacter les candidats dans leur commune, en l'occurrence puisque c'est des élections municipales, pour leur parler de logiciel libre et leur expliquer en quoi c'est important. Donc on a déjà le pacte du logiciel libre qui est disponible sur le site donc candidat.fr. On a un certain nombre de candidats d'ailleurs qui nous a signés. Mais donc là, la campagne est lancée et vraiment, il ne faut vraiment pas hésiter à aller contacter les candidats, à leur parler du pacte, soit en leur écrivant, soit en les appelant à les permanences, ou encore en les rencontrant parce que ça commence à être le cas et ce sera de plus en plus, vous allez rencontrer vos candidats et les voir. Que ce soit sur les marchés, que ce soit à sortir des écoles, que ce soit lors d'événements locaux. Voilà, ils sont présents et c'est le moment finalement de les sensibiliser et de leur parler de cette question qu'ils ne connaissent pas forcément.
D'autant qu'on se souvient de la directive Hero qui disait voilà, il faut penser au logiciel libre, etc. Donc ça, c'est up-bottom, mais souvent ça se passe du bas vers le haut et je pense que les élections municipales sont une occasion tout à fait pertinente pour que ces préoccupations remontent de la base vers les élus.
Absolument, et il y a beaucoup de communes qui aujourd'hui font foi du logiciel libre, on a beaucoup de remontées d'expérience aussi d'ailleurs de communes, petites comme grandes, sur les avantages qu'ils ont clairement à avoir du logiciel libre aujourd'hui, mais par contre, tous les maires, tous les conseillers municipaux ne sont pas nécessairement au courant de ces questions-là. Ce n'est pas forcément des enjeux qui sont actuellement encore perçus, même si c'est de plus en plus le cas avec toute l'actualité qu'on a pu avoir en 2013 notamment. Mais donc vraiment, en ce moment, c'est l'occasion de les informer, de leur en parler, puisque comme ça, plus tard, quand ils seront élus, quand on va à nouveau parler d'informatique, de logiciels libres, ce sera déjà quelque chose qu'ils auront entendu et c'est un premier moyen de les sensibiliser.
Quelque chose qui avait aussi occupé pas mal l'année 2013, c'était à la fois la loi de modernisation de l'école et puis la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche. Dans un article posté le 8, vous revenez sur la réponse faite la veille, le 7 janvier, du ministre de l'Éducation nationale à une question écrite de Laurence Dumont sur la priorité au logiciel libre dans l'éducation, priorité qui dans un premier temps avait été inscrite dans le projet de loi de modernisation de l'école et puis dans un deuxième temps qui avait été, on va dire, désinscrite de ce fameux projet de loi. Donc là, début 2014, le logiciel libre dans l'éducation, c'est toujours pas une priorité pour Vincent Payon.
Effectivement, toujours pas une priorité, on peut le regretter, alors que l'idée d'une priorité pour le logiciel libre dans le service public de numérique éducatif avait été envisagée par le Sénat, avait été finalement plutôt approuvé par les députés, avait finalement été retoqué à la demande donc du gouvernement. On peut clairement le regretter. Visiblement, bon, ce n'est pas nécessairement une grande surprise, mais la position donc du ministre Payon n'a pas changé. Le logiciel libre, ce n'est pas une priorité. Finalement, il évacue un peu la question en parlant d'initiatives qui existaient déjà. On peut le regretter. Et il continue d'invoquer une question de droit européen, une question de compatibilité avec du droit européen sans donner plus de précision. On peut d'autant plus le regretter qu'on voit tout récemment que l'Italie, elle a mis en place la priorité pour le logiciel libre partout dans l'administration, quel que soit le ministère, quel que soit le sujet, avec finalement une obligation d'utiliser le logiciel libre. Et finalement, il faut faire la preuve que le logiciel libre, soit qu'il n'existe pas de logiciel libre, soit qu'il n'est vraiment pas utilisable pour pouvoir utiliser du logiciel propriétaire. Donc là, au contraire, on a une très grande avancée. Et ça pose, à l'inverse, d'autant plus la question de quelle incompatibilité avec le droit européen. De quoi parle réellement Vincent Payon quand il dit ça, quand on voit qu'un pays comme l'Italie généralise ce type de mesures.
Oui, d'autant que il y a 8 mois, on avait déjà souligné le fait que cet argument par rapport à une soi-disant compatibilité avec les normes européennes ou les règles européennes était complètement fallacieux. Donc, il persiste et signe.
Absolument.
Autre point qui nous mobilise l'April en ce début d'année 2014, le fait que vous ayez signé les principes internationaux sur l'application des droits de l'homme à la surveillance des communications, un texte qui peut avoir une portée.
C'est un texte qui me semble au moins symboliquement très important. Alors, c'est une déclaration, c'est un signe de volonté. Donc, c'est pas un texte de loi qui pourrait directement changer les choses. Par contre, c'est important d'avoir ces principes qui sont clairs, qui sont clairement affirmés et qui en plus ont été rédigés par un certain nombre d'organisations, d'associations importantes. Et donc, c'est l'occasion d'avoir, de manière très claire, les 13 grands principes pour assurer la fin de la surveillance de masse et avoir une application réelle des droits de l'homme à la surveillance des communications. Mmh. Donc, à ce titre-là, c'est un document qui est important. Mais je pense qu'il faut plus voir ça comme un document fondateur que comme un changement en soi.
Un document fondateur et puis aussi un document pédagogique qui s'articule autour de 13 principes qui ont été élaborés avec le concours d'un groupe d'experts internationaux avec pour objectif de créer un cadre de référence pour la société civile, les entreprises et les États afin que la législation et les pratiques en matière de surveillance en vigueur dans un pays respectent les droits de l'homme. Processus de rédaction de ces principes menés par Privacy International, Access et l'EFF qui est l'Electronic Frontier Foundation qui se préoccupe des libertés numériques aux États-Unis, si je ne m'abuse. Donc là aussi, à lire.
Voilà, à lire, à faire lire, à relayer aussi. Et je pense que c'est finalement une bonne manière de lancer 2014 parce que c'est mettre clairement l'accent sur cette grande question et ce grand débat qu'il faut avoir aujourd'hui qui est la question de la fin de la surveillance de masse.
Et puis alors, il n'y a pas que des terrains de combat, il y a aussi des terrains d'animation, de célébration et de fête, puisque traditionnellement, depuis 14 ans cette année, ça va être Libre en fête qui va se dérouler entre le 7 mars et le 13 avril.
Et on relance la Libre en fête qui va bientôt redémarrer. Donc le principe est toujours le même, qui est de mettre en place des actions locales et d'appeler les gens à mettre en place des actions locales à côté de chez eux, dans leur environnement proche, pour sensibiliser et informer sur le logiciel libre. Donc ça peut prendre beaucoup de formes différentes. Ça peut être simplement d'aller en parler à un groupe d'amis, à des voisins, d'organiser quelque chose aussi éventuellement dans un cadre, pourquoi pas, avec la mairie, avec l'école ou autre. En tout cas, tout est relayé. Et toute l'actualité est présente sur le site Libre en Fête. Donc n'hésitez pas à regarder, ainsi que sur le site de l'April, pour relier toutes les actions locales qu'il peut y avoir.
Et puis alors, tu y faisais allusion il y a deux minutes, une news postée le 15 janvier. Le Parlement italien avait voté le 7 août 2012 une modification du code des marchés publics qui demande d'utiliser du logiciel libre et de n'envisager le logiciel privateur que dans l'hypothèse où il est prouvé qu'il n'y a pas de solution libre disponible. Ça, c'est l'article 68 du Codice dell'Amministrazione Digitale. Ainsi, par cette disposition, le Parlement souhaite faire de l'usage du logiciel libre et des formats ouverts une règle, reléguant par là même le logiciel privateur au titre des exceptions. L'évaluation doit se faire en conformité avec les règles et critères établis par l'Agence pour l'Italie Digitale. Là aussi, un texte dont devraient s'imprimer les parlementaires français.
Non seulement un texte, mais aussi un processus. Bon. Ça a pu sembler long et ça a été effectivement long parce que ça date de 2012, la déclaration des grands principes, mais finalement, ce n'est pas simplement une déclaration de principe, et c'est le gros avantage aujourd'hui, c'est qu'on a dit qu'on devait utiliser soit, pour être plus précise, en réalité, il faut utiliser soit du logiciel qui existe déjà en interne et qui est réutilisable, donc on a une possibilité de réutilisation qui existe, que l'administration utilise déjà et peut réutiliser, par exemple, notamment c'est en cas des applications qui ont été développées en interne ou autre, ou du logiciel libre. Et finalement, pour acheter du logiciel privateur, c'est une exception, il faut la justifier, et ça doit être dans les derniers cas. Et donc, comme je disais, effectivement, depuis 2012, ça peut sembler long, mais en même temps, pour que ces principes puissent avoir une réelle portée et que ça puisse être une vraie transition au sein des différents ministères, au sein des différentes agences en Italie, c'est un groupe de travail qui a mis en place depuis la signature finalement de la loi un ensemble de critères, de conditions, qui a mené une réflexion sur comment faire pour utiliser du logiciel libre avant tout et quelles sont les conditions finalement de dernier recours dans lesquelles on utilise du logiciel privateur et comment faire pour utiliser du logiciel libre, comment le trouver et ainsi de suite. Donc on a un processus qui était plutôt malin à mon sens puisqu'il a associé quand même beaucoup de personnes. À noter d'ailleurs que même les éditeurs de logiciels propriétaires étaient présents dans le cadre de ces discussions pour avoir aujourd'hui vraiment un mode d'emploi pour un passage général au logiciel libre. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'Italie est le pays le plus avancé là-dessus, plus avancé pour génération du logiciel libre. On va évidemment suivre avec une très grande attention comment ça se passe dans la pratique, quels sont les points où ça avance bien, les points où il y a plus de difficultés peut-être. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui un exemple effectivement par rapport à ce qu'on peut voir en France, et sans doute un premier exemple où on espère que tous les pays européens vont suivre.
Voilà, vont suivre l'exemple italien. Une petite pensée pour Roberto Di Cosmo, qui n'est sans doute pas étranger à la dynamique qui existe en Italie. Pour terminer, on va rappeler que sur april.org, le site de l'association pour la promotion et la recherche en informatique libre, on peut tout simplement, en tant que soi-même utilisateur de logiciels libres, signer la déclaration d'utilisation de logiciels libre.
Tout à fait. C'est une déclaration donc qu'on a mis en place depuis quelques années. C'est effectivement le moment d'en reparler, notamment dans le cadre des élections. Donc elle est disponible à la fois sur le site de l'April ou sur le site candidat.fr. Et donc l'idée, c'est qu'en tant que simple utilisateur, on se nomme et on s'assume comme utilisateur de logiciels libres finalement. Alors c'est pas quelque chose qui est engageant du tout. Vous avez le choix entre faire une signature publique ou une signature privée d'ailleurs. Mais simplement, c'est l'idée de dire, bah, écoutez, le logiciel libre, on n'est pas que 5 dans un garage. On est nombreux, regardez, on a tous ces gens qui ont pris le temps de dire qu'ils étaient utilisateurs et qu'ils trouvaient que le logiciel libre, c'était une bonne chose et qu'il fallait le soutenir. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'engageant, mais c'est quelque chose d'important et qui, pour nous, ensuite, notamment à l'April, dans notre travail institutionnel, a un impact réel. Parce que quand on dit non, mais le logiciel libre, ça ne concerne personne, c'est le moyen de prouver que non, ce n'est pas le cas.
Voilà, je crois qu'on a fait le tour de cet April Actu première de l'année. Une année qui va être pleine de rebondissements, n'en doutons pas. Particulièrement à Montpellier, qui va accueillir les rencontres mondiales du logiciel libre. Et puis, voilà, on vous souhaite plein de courage et plein de victoires pour cette année 2014 à l'April.
Merci. Et puis de même, très bonne année et beaucoup de belles choses, effectivement. On va tous se retrouver cet été à Montpellier et on attend ça avec impatience.
Jeanne, merci beaucoup et à très bientôt.
Merci, à toi.
Divergence numérique, 190e émission sur le 103.3, le 102.0, le 104.1 de Radio Escapade, le 87.8 et le 98.6 de Radio Larzac, bien évidemment sur le 93.9 de Divergence FM qui produit cette émission dans laquelle nous n'aurons pas le temps d'écouter de la musique cette semaine, car ce sont à présent le temps des vœux à l'association Framasoft. Alexis Kaufmann est avec nous au téléphone.
À qui on va tout d'abord souhaiter une excellente année 2014.
Merci, à vous aussi Divergence FM.
Alexis Kaufmann, le représentant de l'association Framasoft, que l'on reçoit assez régulièrement, dont le site internet, évidemment, c'est framasoft.net, un site internet qui est en ligne, quoi qu'on en ait pu penser. Vous avez eu des petits soucis hier, il m'a semblé, non ?
Oui, on a eu des petits soucis cette semaine sur le Framablog, qui a été catalogué comme malveillant par le scan Google, et donc par tout le monde, du coup, et effectivement, on s'est fait un petit peu pirater, mais l'équipe technique veille à tout nettoyer.
Veille au grain. En ce début d'année 2014, quelle est l'actualité framasoftienne, justement, mis à part ces petites aberrations de filtrage, comme quoi le filtrage, ça ne marche pas.
Écoute, déjà, l'année 2013 a été une année dense pour nous. On s'était déployé dans plein de framatrucs, tu sais, hein, framaki, framablog, framalang, etc. Et là, ça a été l'occasion de les regrouper un petit peu. Donc maintenant, on n'est plus lisible parce qu'on a trois grands domaines. On a les logiciels libres, la culture libre et les services libres. Alors dans les logiciels libres, il y a l'annuaire, la framaki, le DVD, etc. Ça fait partie, en 2014, on va essayer de mettre à jour tous ces projets parce qu'on a un petit peu de mal en termes de ressources humaines, de communauté à suivre l'actualité. Si tu veux, ces projets ont tendance à parfois
à s'éparpiller,
un petit peu obsolète avec le temps, notamment c'est le cas de l'annuaire. Donc un gros objectif, c'est de le refondre complètement. Ça, c'est mon job. Rendez-vous dans un an pour voir si ça a bougé.
Bon courage.
Et d'ailleurs, on a un partenaire d'entreprise pour ça, qui est la société Smile, qui nous aide en termes d'ergonomie, de web design, de graphisme et tout, parce qu'on n'est pas non plus des pros pour faire des sites jolis, tu vois. D'ailleurs, on est assez connu dans le libre pour faire des sites pas forcément et des interfaces pas forcément hyper jolies. Elles fonctionnent bien, mais pas forcément hyper joli. Donc l'annuaire à mettre à jour, la framaki, on espère proposer une framaki Debian, tu vois, on a Ubuntu et là, en plus on aura Debian. Ça fera plaisir aux puristes.
Voilà, on précise à ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas de quoi on parle. C'est une clé USB bootable, c'est-à-dire sur laquelle il y a une distribution Linux que l'on peut essayer et tout ça, voire même installer sur son ordinateur.
Voilà, merci de la précision. Le DVD aussi, on va le mettre à jour. Pour l'autre domaine qui est la culture libre, ça a toujours bien fonctionné. Il y a un blog qui est quand même bien dynamique, on fait plein de traductions, ça bouge bien, il n'y a pas de problème. Les bouquins aussi, on a encore de bons projets de bouquins. S'il fallait en citer qu'un, il y en a un qui est amusant, c'est une professeure agrégée, normalienne, en maths sup et tout, qui allait voir une conférence de Stallman cette année et qui a flashé, qui a décidé de faire un bouquin autour de Stallman et les philosophes type Kant, Rousseau, pour étudier la liberté individuelle et collective. Enfin, ça risque d'être assez marrant. On n'a pas encore le titre.
C'est en cours d'écriture.
Ouais, c'est en cours d'écriture, mais c'est voilà, c'était juste un exemple. Et puis la dernière partie, le dernier grand domaine de nos projets, c'est ce qu'on appelle les services libres, c'est-à-dire ce qu'on a mis les applications web en ligne qui sont basées sur des applications libres, donc type Framadat, Framapad, Framacalc, etc. Ça a connu un grand boom l'année dernière. Si tu veux, si je reprends les trois parties, logiciel libre, culture libre, service libre, il y a un an, c'était 60% pour les logiciels libres, 20% pour la culture libre et 20% pour les services. Et aujourd'hui, c'est 40% pour les logiciels, 20% pour la culture qui n'a pas bougé, mais 40% pour les services libres qui ont doublé, tu vois, la part de notre trafic. Notre trafic qui se situe toujours autour de 1 million de visites par mois à peu près. Et on voit bien qu'il y a une forte demande parce que les gens ne veulent pas spécialement utiliser Google, Doodle, etc., etc. Et je rebondis sur aussi un autre truc qu'on a décidé, ça c'est un gros morceau pour nous, c'est de se passer complètement de Google. Parce qu'on était quand même assez dépendant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'affaire Snowden, la surveillance généralisée, les données revendues à des tiers, etc., il y a une grosse pression. Et nous, on ne peut pas tenir un discours ne pas nous-mêmes être clean à ce niveau-là.
Fais
ce que je dis, pas ce que je fais. Hein. Et donc, on va virer Analytics, qui était nos services de statistiques sur tous les sites. Donc, Google Analytics, on va le virer. La pub, il en restait encore ça et là, on va la virer. Le mail, figure-toi que notre mail était géré par Google, oui c'est mal. Et donc on est en train de migrer sur une solution qui s'appelle BlueMind, une solution française d'ailleurs. Pareil pour les listes, nos mailing lists c'était Google Group, enfin tout ça va bouger, il n'y aura plus une goutte de Google sur Framasoft à la fin de l'année 2014, j'espère. Dernier point pour nous, financièrement c'est pas forcément la joie, mais enfin qui n'a pas de problème financier, n'est-ce pas, Divergence FF.
Ouais.
Donc on va peut-être réduire la voilure salariale, on est à 3 permanents, on passera peut-être à 2, bon ça je sais pas, mais voilà quoi, les gens sont pas mal sollicités, c'est un peu la crise. On a fait une campagne de dons qui n'était pas si mal, mais comme on avait fait le pari de rajouter un permanent, bon, c'est un peu chaud, quoi, voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux te dire pour les nouveautés 2014, les celles qui sont les plus proches de nous? Eh ben, on a sorti cette semaine un projet qui s'appelle Bastard Inc.
Voilà, j'allais y venir.
Le guide du connard professionnel.
Voilà, quand les auteurs Framasoft s'allient pour faire de vous des connards libres.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est sur www.connard.pro. Connard au singulier, même si l'expérience montre qu'il y en a quand même, il y en a souvent plusieurs. C'est un projet qui a l'air un peu potage comme ça, mais qui fait assez sérieusement par deux auteurs Framabook, Pouillou, qui est notre romancier, notre premier roman libre dans Framabook, et puis Simon Giraudot qui fait nos petites BD, notre petite planche sur le blog, et qui fait aussi le Geek Shunnerd. Il y a 5 tomes qui sont sur Framabook, donc ils se sont alliés, et donc un scénariste et un dessinateur, comment le définir, c'est pas une BD, c'est pas un roman, c'est une sorte de, ils aiment bien appeler ça une MOOC fiction, tu vois.
Voilà,
un peu de cours en ligne illustré pour nous apprendre le beau métier d'un ingénieur. Pas un ingénieur, un ingénieur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur? C'est le gars qui invente les trucs qui nous font tout le temps chier, genre l'ouverture facile, qui est jamais facile évidemment, les ralentisseurs toujours mal placés, la table basse qui est juste là pour que ton petit doigt se cogne dessus, on est bien d'accord?
Évidemment.
Le rouleau scotch qui roule parfaitement sous l'armoire, les boutons de l'autoradio que jamais t'arrives à atteindre correctement quand t'es en train de rouler en bagnole, etc., etc. C'est assez drôle, c'est assez savoureux, voilà quoi. Ils vont essayer de faire une planche, enfin un article toutes les deux semaines, et puis voire plus si jamais il y a un système de dons aussi pour accélérer le processus, si les gens sont vraiment impatients. Et voilà quoi. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je voulais citer, on fait quand même un gros projet en province, parce qu'il y en a marre du parisianisme notamment, et comme le président, il est strasbourgeois, il y en a marre que bien tant de choses se passent à Paris, peut-être que vous les Montpellierains aussi, vous trouvez qu'il y a trop de centralisme à Paris. Et on fait ce qu'on appelle l'opération Vosges Opération Libre, en mai, 17-18 mai, à Gérardmer, donc dans les Vosges, justement. Pendant un week-end, on va essayer un petit peu de ateliers, conf, stands, projections, concerts, débats autour de la culture libre et de l'open data, avec Framasoft, Wikipédia, OpenStreetMap, le Log du Coin, Lorraine Data Network, tu sais, qui est une émanation de French Data Network, de Bayard, etc., etc. Voilà, un week-end très actif avec la population locale autour de la culture libre.
Rappelle-nous la date.
17-18 mai. Et puis dans l'agenda, je voulais citer un truc très proche qui se passe à Toulouse, donc pas très très loin de Montpellier, qui est la journée du domaine public. Parce que tu sais que je suis aussi attaché au domaine public par un projet...
On l'avait évoqué à la rentrée.
Voilà, on était venu vous voir en début d'année avec Véronique, donc dans le cadre du projet Romaine Lubric. Romaine Lubric, domaine public, donc. Traditionnellement, évidemment, le mois de janvier, c'est le mois du domaine public, puisque c'est au 1er janvier, c'est là qu'arrivent les auteurs morts après 70 ans. Donc ça, en l'occurrence, c'est la promo 1943 qui nous intéresse ici. D'ailleurs, on a du beau monde, on a Camille Claudel, on a Chaim Soutine, on a Simone Veil, on a Rachmaninoff, etc., etc. Et là encore, l'année dernière, c'était à Paris, cette année, c'est à Toulouse, à l'initiative de Wikimedia France. Donc, le dimanche 26 janvier, atelier le matin au musée des Augustins, l'après-midi, conférence à la médiathèque Cabanis, pour ceux qui connaissent, pour les Toulousains qui nous écoutent, même autour de Montpellier et sur le web. Et nous, le soir, avec Romain Lubric, on organise une soirée ciné-débat, ciné-débat-concert, en fait, à l'Utopia Toulouse. Et on va projeter un film muet de Max Linder qui sera mis en musique par Véronique et son accordéon, un film des années 40 de Ward Hawks, La Dame du Vendredi, qui est tombé dans le domaine public parce qu'il y a une époque, à un moment donné, aux États-Unis, il fallait renouveler volontairement le copyright, sinon ça tombait dans le domaine public. Donc ceux qui ne le renouvelaient pas, tant pis pour eux.
Et là, c'est le cas.
Donc, et tant mieux pour nous. Et puis après, un petit tableau rond, un petit débat avec Calimac, Lionel Morel, que tu dois citer de temps en temps, j'imagine, dans ton émission. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on va faire exactement la même chose. Quand ça?
Au mois de juillet.
Au mois de juillet, c'était l'été prochain. Chez vous à Montpellier, dans le cadre des rencontres mondiales logiciels libres, donc à l'Utopia Montpellier, enfin exactement la même chose, mais avec une autre programmation, évidemment, pour varier les plaisirs. Et voilà, on espère que vous serez nombreux.
Eh bien oui, et puis avant de se quitter, je ne saurais trop saluer les efforts de Framalang, qui est l'activité de traduction bénévole de Framasoft, et qui est citée tout au long de l'année dans la revue de presse de l'April, qui s'alimente assez régulièrement de traductions d'articles que les gens de Framalang ont eu la gentillesse de faire.
Ouais, merci pour eux, parce qu'ils font un super boulot. Et malheureusement, ça reste toujours utile. C'est-à-dire que Framalang disparaîtra le jour où tous les Français seront bilingues en anglais.
Et oui,
et ce n'est pas demain la veille.
Ce n'est peut-être pas demain la veille. Oui, non, ce n'est certainement pas demain la veille, mais allez savoir, l'espoir fait vivre. Alexis Kaufmann, on te remercie de nous avoir accordé ce petit quart d'heure sur les ondes de Divergence FM. On aura l'occasion, j'imagine, de se revoir en chair et en os dans cette émission.
Merci à toi. Keros Networks.
Et c'est ainsi que se referme cette divergence numérique numéro 190. Je vous renvoie à mompel-libre.fr pour l'agenda local, pour agendadelibre.org pour l'Hexagone. Et je vous souhaite une excellente semaine et une excellente année 2014, durant laquelle, comme toujours, il vous faudra rester libre. Terrorist Networks. Terrorist States. Terrorist Networks.
Vous ne savez pas pourquoi vous aimez les loutres, mais vous savez pourquoi vous aimez les logiciels libres.